Bonjour à tous, bonjour Fred.
Bonjour, Laetitia.
On est ravis de vous retrouver ce matin pour donc ce webinaire qui est dédié à votre secteur, celui des mutuelles et des assurances. Et on va non pas jouer à Madame Irma, mais on va vous dire pourquoi est-ce que vos clients auraient tendance à vous quitter. On n'a pas lu dans le marc de café ni dans la boule de cristal, mais voilà, on a des stats à vous montrer ce matin. Alors, qui nous sommes? Alors, je vais
Je t'en prie.
commencer.
Allez.
Ouais, c'est ça. Je commence par moi. Donc, je suis Laetitia Barré. Je travaille pour une société qui s'appelle Efficie, qui est éditeur de CRM. Et je m'occupe du positionnement de la marque. Et j'ai le plaisir ce matin d'animer ce webinaire avec monsieur.
Frédéric Canevet, enchanté. Donc, je suis responsable des projets digitaux chez Elocan et ça m'arrive régulièrement de mettre les mains dans le cambouis sur certains projets bots chez nos clients. Alors en fait, qu'est-ce qu'on va voir dans cette demi-heure, 45 minutes qu'on va passer ensemble? Ben, en fait, comme disait Laetitia, on a mis en place une étude en partenariat avec OpinionWay, qui en fait tout simplement a essayé de deviner ou de déterminer quels étaient les leviers de la fidélité de vos clients dans le secteur des mutuelles et assurances. Alors on a été vraiment identifié trois grands types de produits, à la fois les services donc d'assurance, donc d'habitation, les services de mutuelle et également tout ce qui est assurance automoto. Donc on a essayé vraiment de couvrir les secteurs les plus larges. Pour cela, on a interrogé plus de 1000 personnes et donc on reviendra vraiment sur ce sujet-là et les chiffres ont été instructifs. De l'autre côté, on vous donnera également une vision croisée avec cette fois les avis de professionnels de la relation client. Donc on a interrogé une trentaine de personnes afin d'avoir vraiment une vision croisée entre ce que pensent les clients, vos clients, et ce que pensent en fait les professionnels de la relation client et voir s'il y a des dissonances.
Donc l'avis des assurés et l'avis des assureurs.
Exactement. Et à la fin de cette présentation, donc bien entendu, on vous donnera un petit plan d'action avec aussi des grandes dates où on pourra échanger ensemble, des salons où on est présent. Et si vous êtes présent aussi, on pourra même aller plus loin et échanger sur les solutions et le plan d'action qu'on vous a proposé.
On finira sur un cahier passeport, comme avec les
Avec des
enfants.
exercices. Et bien entendu, à la fin de cette présentation, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Alors, les présentations en quelques mots Efficie. Donc, Efficie, comme je vous l'ai dit en introduction, on est éditeur de CRM, on est une société européenne, notre siège est à Bruxelles. Et notre mission, c'est de permettre à toutes les organisations, que ce soit des entreprises ou des organisations publiques, de tisser des relations qui sont durables et pérennes avec leurs audiences, leur public, que ce soit des clients, des prospects, des partenaires ou autres, pour une croissance durable. En quelques chiffres, je vais me concentrer sur la France. On a trois bureaux en France qui sont à Paris, Lyon et Toulouse. On a 1 500 clients en France, groupe européen basé à Bruxelles. Et pourquoi choisir la solution Efficie CRM? On a les données qui sont hébergées en France, une solution qui est totalement ouverte, ce qui est bien pratique dans le domaine de la mutuelle et l'assurance parce que on va pouvoir s'interconnecter avec une gestion documentaire, un tarificateur, des outils d'aide à la vente ou encore des solutions de gestion d'interaction multicanale. On propose nos solutions en SaaS ou on-prem pour les Voilà, ceux qui le souhaitent. Co-création encouragée, c'est-à-dire que nos clients peuvent peser sur la roadmap de notre produit, l'orienter. Et enfin, on a la particularité d'être éditeur, mais aussi intégrateur de nos propres solutions, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des partenaires intégrateurs également. Je la fais courte. Et alors là, vous devez voir soit vos logos, soit les logos de vos pairs. Voilà, de vos confrères, donc avec plusieurs noms dans le métier de la mutuelle et de l'assurance. Et j'ai vu quelques-uns d'entre vous qui étaient connectés ce matin, donc ça, voilà. Bonjour aux clients. À toi.
Alors bonjour, donc si vous ne nous connaissez pas, donc Elocan, on est aussi éditeur de logiciels, on est éditeur de solutions, de centres de contact et de voix du client, donc feedback client et feedback collaborateur. Notre objectif à nous, c'est de vous aider à gérer, améliorer les conversations et les interactions avec vos clients. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on existe, un petit peu comme FICI. On est présent dans 40 pays. Donc, on gère quasiment un demi-milliard d'interactions chaque année, que ce soit des emails, des conversations téléphoniques, des SMS, du chat, etc., etc. Et on gère près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction, que ce soit avec des boutiques Orange, Bouygues Télécom Entreprises, Geodis, etc., etc. Donc, on est plus de 100 collaborateurs, 120, qui sont basés à Paris et à Grenoble principalement. Voilà. Alors, si après on s'intéresse un petit peu sur notre gamme de produits, donc comme je le précisais, on a donc deux grandes activités. La première qui est l'activité de centre de contact. Et là, bien sûr, on va gérer toutes les conversations de manière omnicanale, email, chat, téléphone, SMS, etc., etc. On est aussi sur le self-care avec des chatbots et callbots, l'IA générative qui est vraiment le fait de l'année 2023 et vraiment pris en compte dans tous les produits. Et bien entendu, on va piloter la performance avec la supervision des parcours clients. Donc, de l'autre côté, le second pilier, c'est l'enquête de SAT et tout ce qui est écoute collaborateur, avis client, analyse sémantique des parcours clients. Et pour cela, en fait, on peut acheter notre solution globalité ou acheter uniquement certains modules. Voilà. Et comme Laetitia, nous aussi, on a beaucoup de clients dans le domaine des mutuelles et des assurances. Vous avez quelques références là-dessus. Puis on est vraiment content d'accompagner aussi des leaders qui font avancer le marché. C'est vrai qu'on a souvent des clients qui sont sur le podium de la relation client ou qui sont élus service client de l'année, ce qui nous fait plaisir parce que quelque part, on met un petit peu notre pierre à l'édifice pour les aider à atteindre cette excellence relationnelle.
Bon, maintenant qu'on s'est présenté, pourquoi on est là?
Tout
Pourquoi
à
ce
fait.
focus?
Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, à chaque fois, moi, que j'échange en fait avec des professionnels de la relation client dans le domaine des secteurs mutuelles et assurances, à chaque fois, on échange sur les bouleversements du secteur. C'est vrai que c'est un secteur qui a été touché par pas mal d'évolutions. On voit qu'il y a quelques années, il y a les mutuelles obligatoires qui sont passées sur les entreprises. Il y a l'arrêt en cours d'année. En juin dernier, c'était la résiliation en trois clics. Là, on a des clients qui travaillent avec les administrations. C'est l'ouverture à la concurrence de tout ce qui est mutuel dans les administrations. Ça, c'est des gros bouleversements qui touchent votre secteur d'activité. Et c'est vrai qu'on travaille la main dans la main avec nos clients pour essayer de les aider à prendre en compte ces changements. En même temps, on voit qu'au niveau du secteur d'activité, il y a des nouveaux entrants qui arrivent, qui bousculent un petit peu les codes de la relation client, avec des acteurs 100% digitaux, avec des parcours 100% digitaux, avec du self-care. Et c'est vrai que les clients, finalement, ils comparent un petit peu les différentes marques du marché, puis ils disent, tiens, il y a quelque chose qui est sympa là-dessus, etc. Et il faut toujours, en fait, se remettre en cause, se remettre en question. En plus, il y a les acteurs qui arrivent aussi avec qui proposent des solutions multi-garanties, sans parler de tout ce qui est rapprochement et fusion dans les différentes entités et groupes. En même temps que cela, il y a aussi des contraintes externes. Les contraintes externes, nous les vivons tous, et en particulier en ce moment avec l'actualité, tout ce qui est rapport qualité-prix, l'augmentation, l'inflation, et mais aussi en même temps la quête de sens. Et on le voit avec le phénomène autour des agriculteurs, ça devient de plus important. Et tout cela, cette quête de sens, cette valeur ajoutée, cette notion de rapport qualité-prix, ils impactent la relation client et la relation que vous avez au quotidien avec vos assurés et adhérents. Donc voilà, on a essayé vraiment de travailler là-dessus parce que la fidélisation, ça va être essentiel dans un contexte où le contexte économique va être un peu plus dur. Donc il faut garder ses clients et leur donner une bonne raison de rester fidèles à votre entreprise. Voilà. Et donc c'était le but de l'étude.
Alors, l'étude transition toute trouvée.
Alors, l'étude, en fait, comme je le disais, on l'a mis en place avec OpinionWay et on a vraiment essayé d'interroger de plus de 1009 personnes. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir quand même un échantillon qui est très, très exhaustif. Et on a posé quelques questions. Alors, la première, et c'est vrai que je pense que c'est la plus importante, c'est est-ce que vous êtes attaché ou non à votre société d'assurance pour l'habitation, à votre mutuelle ou être assureur automoto. Donc ça, c'était vraiment une question clé. Et on va passer par le positif. La première chose, c'est de dire que la bonne nouvelle, c'est que grosso modo, vous avez environ 55% des personnes qui se disent plutôt attachées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Un sur deux qui se dit, voilà, j'ai confiance dans ma mutuelle, j'ai confiance dans ma société d'assurance. Et c'est vrai que quand on voit ici les chiffres, c'est assez intéressant. On voit ici que les personnes qui sont très attachées, grosso modo, c'est 13%. Les personnes qui sont plutôt attachées, c'est 43%. Donc, on est sur des gens qui vous font plutôt confiance. Et on voit que cette confiance, elle est valable aussi bien dans le secteur de l'assurance habitation, dans le secteur des mutuelles ou de l'automoto. Donc c'est assez cohérent là-dessus. Les gens ont plutôt une bonne image de vous. En revanche, si on commence à s'intéresser à quelque chose qui sent un peu moins positif, c'est plutôt les personnes qui, eux, elles, plutôt, ne sont pas du tout attachées. On voit que ça représente à peu près 14-15% de vos clients, de vos adhérents, qui se disent, bah non, moi, je ne suis pas du tout attaché à ma société d'assurance mutuelle. Et ça, c'est un vrai problème parce que ces gens-là, en fait, ils peuvent vous quitter du jour au lendemain parce qu'on leur propose une meilleure offre, parce qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant, parce qu'ils ont vu une publicité. Donc, ces personnes-là peuvent vous quitter du jour au lendemain. Et si on s'intéresse aux personnes qui sont plutôt pas attachées, là, on a encore 20% de plus. C'est-à-dire que vous avez la moitié des gens qui disent, oui, je suis plutôt attaché à ma société d'assurance mutuelle. Et vous avez l'autre moitié qui disent, bah, finalement, non, elles se valent tous un petit peu, c'est un petit peu tous pareil. Et ça, c'est un vrai danger parce que finalement, vous avez que 13-14% des personnes qui sont vraiment fidèles à votre marque et qui disent, ouais, cette entreprise-là, j'ai confiance en elle, je veux la garder, elle m'offre quelque chose de particulier. Donc ça, c'est vraiment cette notion de lien fort doit être renforcée. Ça, c'est le premier enseignement de l'étude. Alors, s'il y a un deuxième enseignement, c'est essayer de zoomer. Est-ce qu'il y a des différences selon l'âge, selon le sexe, selon la profession? Et là, ce qui est intéressant, bon, au-delà de dire, OK, il y a une petite différence entre les hommes et les femmes, mais ça reste quand même assez marginal. Ce que l'on voit vraiment ici, c'est qu'il y a une très, très grosse différence selon l'âge. On voit ici, par exemple, sur les 18-24 ans, que, en fait, les gens qui sont plutôt attachés à leur assurance ou mutuelle, hein, et ben en fait, il est relativement faible, c'est les jeunes. On voit que sur l'assurance habitation, 36% uniquement des 18-24 ans se sentent attachés. Par contre, si on voit les 65 ans et plus, là, au contraire, on a 74%. Pour la partie mutuelle, pareil, donc c'est le taux est un petit peu plus important, 46% chez les jeunes, 73% chez les personnes, entre guillemets, seniors, personnes âgées, 65 ans et plus. Si on fait de l'assurance automoto, 30%, 71%. Alors, il y a une première chose à se dire. La première chose, c'est de dire, ben voilà, les jeunes sont moins fidèles. Alors, on pourrait se dire,
Moins attaché.
moins attachés. Voilà, moins attachés. On pourrait se dire, voilà, je suis moins attaché parce que ben finalement, ben plus je suis senior, plus je fais appel à ma mutuelle, et donc forcément, plus j'en ai besoin, plus c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire ça, 46%, 73%. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que ben, sur l'automoto, ben, où il n'y a pas quand même cet aspect santé qui est vraiment important et qui est prégnant, ben, là aussi, l'attachement est faible. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'usage de la mutuelle qui va être important, mais c'est cette relation au fil du temps qui est importante. On voit bien que plus, en fait, on avance dans l'âge, plus on a eu bah, peut-être des incidents, des accidents, alors accidents de la vie, accidents de voiture, accidents de logement, mais on voit que plus, en fait, il y a une relation forte dans le temps, plus on se rend compte, en fait, que cette assurance, cette mutuelle est vraiment importante. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que vous devez montrer cette valeur perçue, même aux personnes qui ont eu peu d'incidents avec vous, et leur expliquer pourquoi, en fait, c'est important, qu'est-ce que vous apportez en plus, ou alors les valeurs mutualistes que vous apportez. On voit souvent dans différents secteurs, il y a des gens qui disent, voilà, moi, je fais des actions de prévention, je travaille beaucoup pour la responsabilité. Donc, voilà, c'est important de se dire, cette première slide-là, c'est de dire l'attachement à une société d'assurance, une mutuelle, est vraiment très variable selon l'âge, et qu'il y a un effort important à faire sur les jeunes. Sur les seniors, eux, ils sont vraiment convaincus, ils sont vraiment, pour eux, c'est quelque chose qui est important, et ils sont très attachés à leur marque parce que elle a
Ils
été
ont eu le
une.
temps de l'éprouver.
Voilà, exactement.
La question suivante qu'on leur a posée, c'est êtes-vous d'accord ou pas avec chacune des affirmations suivantes? Alors, comme vous le voyez, il y a des résultats qui sont, je dirais, assez surprenants. Et moi, quand j'ai analysé cette slide, je trouve que c'est la slide du en même temps. Donc, vous avez 85% des répondants, des Français, qui sont plutôt d'accord avec la phrase « Vos expériences passées avec votre assureur ont été plutôt bonnes ». Donc, ce qui est plutôt positif. Alors, je pondérerai parce qu'on a 25% qui sont tout à fait d'accord et 60% qui disent plutôt d'accord, donc qui montrent un enthousiasme un peu plus léger. Et dans le même temps, vous avez 46% d'entre eux qui disent qu'ils trouvent que leur assureur aura toujours tendance à trouver des motifs pour ne pas les indemniser correctement en cas de problème. On va pas rentrer dans les clichés. Mais voilà, vous avez encore un peu moins de la moitié des gens qui estiment que vous n'êtes pas fidèle à vos engagements. Et donc, à chaque fois que vous avez la possibilité de vous échapper et donc de ne pas indemniser, eh bien voilà, ce serait une occasion qui serait prise. Donc, il y a vraiment une question d'image à retravailler auprès de ces gens-là. On a également 85% des gens qui estiment avoir de bonnes relations avec leur assureur. Donc là, c'est plutôt rassurant pour le coup. Et en même temps, 58% qui estiment que les prestataires, pardon, proposent tous plus ou moins les mêmes produits, qu'il faut choisir le moins cher et, grosso modo, que les prestataires sont interchangeables, disons-le. Donc là, il y a 58%, donc là on a dépassé le seuil de la moitié, donc encore une fois il y a une question d'image à aller chercher. Au niveau de la joignabilité, donc la facilité à entrer en contact avec vous, 81% estiment que leur assureur ou leur mutualiste est disponible, joignable quand ils en ont besoin. Donc ça c'est plutôt bien, c'est quelque chose qu'on regardera, on a fait le même exercice avec l'observation par tranche d'âge. C'est quelque chose que je vais pondérer dans pas très longtemps. Et enfin, vous avez envie d'être fidèle à votre assureur. Vous avez 72% des répondants qui ont cette envie-là. On va voir que quand on passe à une analyse plus granulaire, voilà, il faut faire attention. Alors, normalement, j'ai une animation. Oui. Dans ce tableau, donc comme Fred l'a fait sur la question précédente, je me suis intéressée au gap entre les générations. On voit tout à l'heure que l'attachement vient avec l'âge. Il semblerait, pardon, que la fidélité aussi. Vous avez, allez, 2 jeunes sur 3 qui ont envie d'être fidèles à leur assureur. 2 jeunes sur 3 seulement, donc 18-24 ans. Et le chiffre est beaucoup plus élevé quand on monte sur des tranches d'âge plus âgées, donc les 65 ans et plus, eux sont 84% à avoir envie d'être fidèles à leur assureur. Tout à l'heure, on en a parlé. Est-ce que c'est l'avis qui a fait qu'ils ont eu le temps d'éprouver leur assureur et le respect des engagements par leur assureur qui les rend plus fidèles? Certainement. Également, vous n'avez pas créé de lien particulier avec votre assureur. Alors là, on a toujours ces 20% d'écart. C'est rigolo d'ailleurs de voir ce même écart. Les jeunes, les 18-24, n'ont pas créé de lien particulier avec leur assureur. Alors, ce qui peut aussi se passer, c'est qu'à cet âge-là, les 18-24
Ouais, soit l'assurance de
sont
leurs
couverts,
parents.
exactement, sont couverts par l'assurance de leurs parents. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de lien particulier, c'est qu'ils n'ont pas de lien tout court. Mais bon, la question était, vous n'avez pas de lien particulier avec votre assureur. Et donc là, il y a 8 personnes sur 10 de cette tranche d'âge-là qui estiment que c'est plutôt valable. Alors que sur les 65 ans et plus, ce chiffre-là tombe à 59%. Autre travail d'éducation à faire sur les populations jeunes, c'est que cette perception d'interchangeabilité, si je puis me permettre ce néologisme, est beaucoup plus présente sur les populations de 18-24 que sur les 65 ans et plus. Mais là encore, est-ce que c'est une méconnaissance, donc quelque chose qui vient d'eux, ou une mauvaise éducation, je ne critique pas le travail de leurs parents, mais plutôt des assureurs, de se dire, voilà, c'est notre métier, voilà comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Tout à l'heure, Fred parlait de prévention, ça peut aussi être ça. Et alors, le grand écart, le plus grand, c'est vraiment sur la dernière question. Votre assureur trouve toujours des motifs pour ne pas vous indemniser correctement en cas de problème. Ils sont 63% dans la tranche, pardon, 18-24 ans à être d'accord avec cette affirmation, alors que ce chiffre baisse très, très largement pour tomber à 30% pour la tranche d'âge plus âgée. Donc voilà, on a vraiment une perception très différente au fil de l'âge, et je dirais que la perception s'améliore, c'est peut-être comme le bon vin, s'améliore avec l'âge. Donc il y a un gros, gros travail d'éducation à faire sur les populations jeunes, mais on y reviendra un petit peu plus tard.
Ah. Maintenant, on va s'intéresser à une législation que vous connaissez tous, hein. On fait un focus sur tout ce qui a attrait à la résiliation. On l'a dit en introduction, la résiliation en trois clics, c'était vraiment un changement dans votre secteur d'activité et que désormais, vous devez être en mesure de faire une résiliation en trois clics pour les personnes qui ont souscrit des contrats en ligne. Alors, est-ce que cette législation qui est entrée en vigueur il y a plus de 6 mois a été prise en compte ou pas? Et là, on a posé la question, considérez-vous aujourd'hui qu'il est facile ou difficile de changer d'assureur? Et chose assez étonnante, donc il y a donc certes 85% des gens qui pensent que c'est facile, mais on n'a que 25% des gens qui pensent que c'est très facile. Donc c'est relativement peu perçu pour l'instant. Donc alors, en même temps, c'est une force pour vous parce que ça veut dire que les gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent résilier facilement, mais en même temps, ça peut être un problème puisqu'en fait, s'il y a un acteur du marché qui dit mais voilà, en trois clics, vous pouvez changer de mutuelle et vous pouvez switcher de votre ancienne mutuelle, passer de l'une à l'autre en cours d'année, etc.,
Il
etc.
plie le game,
Voilà,
comme dirait les 18-24.
ça peut être un danger pour vous. Donc, en fait, attention à cela. Et donc, c'est pour ça que la fidélisation est vraiment essentielle. Alors, on voit qu'il y a quand même certaines personnes qui disent que c'est difficile, 13%. Donc, on va voir que l'aspect âge est vraiment clé. Donc, on fait un focus. Donc là, on a reposé donc cette même question et on a vraiment une différenciation entre donc hommes, femmes, âge et bien entendu aussi tout ce qui est
CSP.
CSP. Et là, en fait, il y a vraiment toujours cette dichotomie entre les seniors et les juniors. Alors, la première question qui était tout simplement, est-ce qu'il est donc facile ou difficile de changer d'assureur? Quand on dit qu'il est très facile, c'est uniquement 7% des jeunes. Alors que la moyenne est de 25% et que pour les personnes seniors, c'est 33%. Donc en fait, on voit bien qu'il y a vraiment une très grosse différence. Et si on veut au total de tout ce qui est facile, 68% chez les 18-24 ans contre 92% chez les 65 ans et plus. Donc on voit bien que chez les 65 ans, c'est un vrai sujet. Ils sont vraiment renseignés parce que la mutuelle des seniors, on le sait très bien, il n'y a plus la part patronale. C'est vraiment un montant important pour eux en plus, puisque ils ont plus de soucis de santé. Donc eux, ils sont très au fait qu'ils peuvent changer. Et ils savent que c'est facile. Donc quelque part, vous avez intérêt, comme les Laetitia, à lors des moments de vérité, à être là, à être au rendez-vous et à justifier pourquoi vous avez ce prix-là, pourquoi il y a cette qualité de service, les valeurs de la mutuelle ou de la société d'assurance que vous avez, les avantages de votre contrat par rapport aux autres. Donc, on voit bien ici que cet aspect facilité, il est un petit peu méconnu des jeunes, comme on le disait. C'est peut-être pas eux qui gèrent le contrat, c'est peut-être un contrat d'entreprise, c'est peut-être leurs parents. On voit aussi que sur les 25-34 ans, c'est aussi un petit peu sous-estimé. Et plus on va dans l'âge, plus on se rend compte que finalement, c'est peut-être une meilleure connaissance de ce qu'on peut faire. À l'inverse, bien entendu, ce qui n'est pas facile, on voit que c'est surtout les jeunes. Les jeunes ont l'impression que changer de mutuelle ou de société d'assurance, c'est compliqué. Alors que ce sont plutôt des digital natives et ils devraient être plutôt capables de changer. Eh ben non, ils n'ont pas cette spécificité-là. Et ce qui est comme un challenge pour vous, parce qu'on sait très bien qu'une personne qui est jeune, qui souscrit à une mutuelle ou qui souscrit à une assurance, va rester fidèle pendant plusieurs années. Donc, il faut surtout pas les manquer au départ et faire en sorte qu'ils soient fidèles durant le plus de temps possible. Voilà. Donc, ces enseignements, c'est les jeunes ne sont pas informés que c'est facile de changer, les seniors, au contraire, sont au courant et donc il faut vraiment faire un focus chez eux.
Alors, dans le titre du webinaire, pourquoi vos clients vous quittent-ils? Voilà, là on a les éléments de réponse. On a posé la question donc à nos 1009 répondants. Parmi les éléments suivants, quels sont tous ceux qui pourraient vous inciter à quitter votre assureur? On voit une majorité écrasante. Bien sûr, il y avait plusieurs réponses possibles. Hein. Si vous faites la somme, on est supérieur à 100. Une écrasante majorité des réponses va s'orienter sur la hausse de prix récente des contrats. Vous vous souvenez, sur une slide précédente, les Français ont l'impression que vous êtes interchangeable et grosso modo, votre offre de service se vaut. Eh bien, la hausse des prix récente ferait qu'ils auraient tendance à vous quitter pour aller voir ailleurs. Alors, mauvaise nouvelle pour les Français, on ne va pas forcément dans la bonne direction, en tout cas sur ce sujet-là, parce qu'il y a la hausse des prix, il y a la hausse de la sinistralité aussi qui pèse sur le prix. Mais voilà, donc c'est la première raison. Deuxième raison, ça va être des raisons d'insatisfaction avec une mauvaise gestion des sinistres par le passé. Il y a beaucoup comment dire, il y a assez peu d'occasions, je dirais, d'entrer en contact avec son assureur tout au long de la vie du contrat, si ce n'est en cas de sinistre. En tout cas, c'est la situation actuelle. C'est pas ce qu'on va vous conseiller, mais c'est la situation actuelle. Et c'est là que, comme on le disait au tout début, ils vont éprouver en fait la qualité de qu'ils vont percevoir de votre service. Donc voilà, donc il y a ces deux sujets-là, la hausse des prix et l'insatisfaction. Il faut que vous gardiez à l'esprit que le rapport qualité-prix et qualité perçue est quelque chose de primordial que vous allez devoir soigner tout au long de la vie du client chez vous. S'ils ont l'impression de payer pour avoir aucun service en retour, ils vont pas rester longtemps. Après, tous ne sont pas au courant qu'il est facile de vous quitter. Mais non, voilà, blague à part, faites très attention à trouver l'équilibre entre le rapport qualité-prix et la qualité perçue. La qualité perçue, comment est-ce qu'on y travaille? Ça va être dans la qualité de la relation qu'on va avoir avec son client. Pas forcément n'être là, pardon, qu'au moment des sinistres, mais prévoir plus de proactivité dans votre relation avec eux, prendre de temps en temps des nouvelles, faire de la prévention, leur proposer, je ne sais pas, des stages de formation au premier secours, toutes ces choses-là, en fait, qui vont faire que le lien que vous allez avoir avec votre client va, je dirais, s'épaissir et ils vont avoir moins tendance à aller voir ailleurs. Ensuite, vous avez les autres raisons qui sont à peu près, qui arrivent à peu près à égalité. Toujours notre exercice sur les sexes, les tranches d'âge et le statut, enfin les catégories socio-professionnelles. Moi, il y a un chiffre qui m'a un petit peu surprise, c'est celui-ci que vous voyez en surligné sur la slide. Donc, il y a 40% des 18-24 ans qui trouvent qu'il est difficile d'entrer en contact avec lui, comme le disait Fred. Donc, ce sont des gens qui sont digital natives. Et ils vous attendent sur les réseaux qu'ils utilisent. Et d'ailleurs, j'ai donné déjà un indice. J'ai dit les réseaux et non pas les canaux. Eux, ils veulent vous trouver là où ils sont, là où ils passent leur temps. Et ils passent leur temps, justement, sur les réseaux. Pour avoir fait l'exercice en préparant ce webinaire, je me suis rencardée un peu sur la présence des assureurs sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, qui est un réseau social sur lequel les jeunes vont. Alors, je ne suis pas allée voir sur TikTok, mais sur Instagram. Sur Instagram, il y a des comptes qui peinent difficilement à avoir 13 000 followers dans le domaine de l'assurance, hein, alors que les plus gros influenceurs ont plusieurs millions d'abonnés. Donc, peut-être que c'est là qu'il faut aller les chercher. Alors, je dis pas qu'on va aller expliquer le contenu d'un contrat sur Instagram, c'est pas l'objet. Mais voilà, vous pouvez vous montrer plus joignable, plus disponible, plus accessible sur ces canaux-là en allant à la rencontre des jeunes. Parce qu'encore une fois, ça n'est pas à vous d'imposer les canaux qui vous conviennent le mieux, mais plutôt à vous de proposer ou d'être présent sur tous les canaux où vos publics sont. Voilà. On va avancer parce que je crois qu'on est un petit peu,
Bavard.
ouais, on est un petit peu à la bourre. Les relations à votre assureur. Donc là, encore une question. Parmi les situations suivantes, quelles sont toutes celles qui vous correspondent? Changer d'assureur vous semble plus facile qu'avant? On l'a vu, les gens n'ont pas forcément conscience de cette facilité-là qui leur est laissée. Vous avez changé d'assureur au cours des 5 dernières années. Finalement, il y a seulement 23% des gens qui sont dans cette situation-là, ce qui veut dire que vous devez avoir un taux d'attrition, j'allais dire de churn, d'attrition qui doit tourner autour des 5% par an, ce qui est plutôt, voilà. J'allais dire ce qui est plutôt bon. Donc, ce qui veut dire qu'il faut 20 ans pour renouveler toute votre base client en entier. Attention quand même, 5% c'est pas mal, mais il faut quand même s'assurer qu'il y a 5% qui rentrent, au moins 5% qui rentrent de l'autre côté en nouveau client. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant sur cette slide, et là je vais passer à la dernière ligne. Alors, il y a une vision optimiste de voir les choses, c'est qu'il y a 32% des gens qui ne se sentent concernés par aucune des affirmations au-dessus. Donc, soit ils n'ont pas renégocié, soit changer d'assureur, c'est pas leur problème. En tout cas, ils ne s'y intéressent pas. Donc voilà, la version optimiste, c'est de se dire cool, il y en a 32% qui sont captifs et qui ne se posent même pas la question du départ. Attention quand même, parce que vous l'avez vu, vous êtes attendu au tournant sur le prix et peut-être que ces 32%-là ne se sont pas posé la question jusqu'au jour où le prix basculera. Basculera ou en tout cas les fera basculer. Toujours. Ce gap générationnel sur la facilité de changement. Alors, les 18-24 ans sont pas du tout au courant qu'il est beaucoup plus facile de quitter son assureur maintenant que précédemment. Et les 25-34, alors c'est la première fois qu'on parle d'eux dans l'étude, ont l'air d'être plus au courant de ce qui se passe au niveau assurance et plus attentifs à leur équipement en contrat d'assurance. Donc, eux, c'est là que la différence se fait. Vous renégociez souvent vos contrats d'assurance. Ce sont les 25-34 ans qui sont les plus
Susceptible de changer.
susceptibles de changer. Exactement. Ensuite, vous avez déjà renoncé à changer d'assureur car les démarches vous semblaient trop compliquées. À noter une belle performance des 65 ans et plus qui alors, eux, une fois qu'ils ont une idée en tête, ne changent pas et même si c'est compliqué, ils vont changer d'assurance. Alors la vision optimiste de voir ça, c'est de se dire qu'ils sont très à l'aise avec les démarches et qu'ils sont en contact régulier avec leur assureur, auquel cas, le jour où ils ont envie de changer, bah, ça change rien. Enfin, ça change rien, ça va changer d'assureur, mais je veux dire, ils n'auront aucune difficulté à faire passer le message pour renoncer. Chose intéressante et assez surprenante, on a les CSP+ qui ont déjà renoncé à changer d'assureur parce que les démarches étaient trop compliquées, alors que on pourrait penser que ce sont des gens qui sont plutôt à l'aise avec l'outil informatique, mais voilà, c'est peut-être une question de temps et les
Le coût aussi, si ça représente peu, forcément, c'est
voilà,
pas.
ouais, exactement.
Alors, maintenant, on va passer au regard croisé avec les professionnels du secteur. Comme
Fini
je
le
vous disais,
quanti.
voilà, là, on était sur vraiment les adhérents, les clients. Là, maintenant, en fait, on va parler des professionnels et on va voir s'il y a des différences. Alors, pour cela, en fait, on a fait une étude auprès de 30 professionnels de la raison client et on leur a posé quatre questions. Quelle est la raison majeure pour vous, un client, vous qui. Ensuite, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez déployées dans les 12 derniers mois qui ont un impact positif sur la fidélité de vos clients cette année? Ensuite, les deux priorités d'investissement en expérience client pour 2024. Et enfin, que rêveriez-vous de modifier ou de faire évoluer dans votre relation client? Là, on est plus dans le rêve, donc c'est ce qu'on se projette. Alors, si on regarde en fait les chiffres dans le détail, le premier, pourquoi un client vous quitte? Donc, la bonne nouvelle pour l'instant, encore une fois, c'est que grosso modo, vous comme vos clients, vous vous dites, voilà, c'est la qualité de la relation client, le suivi. Donc, il ne faut pas manquer de rappeler les clients, de faire du suivi, du proactif, etc., etc. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que il y a vraiment un décalage sur l'importance du prix. Pour vous, en fait, le rapport qualité-prix, bon, c'est 1 sur 2. Par contre, chez les clients, c'est près de 70%. Donc, vraiment, pour vous, vous n'avez pas pris conscience que le facteur prix est devenu quelque chose d'essentiel et que justifier le prix, justifier la valeur, apporter une valeur supplémentaire doit être mise en avant et expliquer le pourquoi de votre offre. Le dernier point, c'est le manque de considération. Pour vous, vous dites, bah oui, on fait notre job, on fait bien les choses pour les clients, on leur envoie des communications, etc. Sauf que ce n'est pas le cas. 22% des clients pensent que y a un manque de considération et que ça peut les inciter à vous quitter. Donc, la qualité de la relation client, les personnes au téléphone, par email, etc., pour vous, c'est que 4 sur 30, moins d'une dizaine de pourcents. Donc, il y a vraiment un gros décalage là-dessus et il y a vraiment cet aspect miroir déformant que vous devez prendre en compte. Alors, pour vous, les bonnes pratiques, justement, pour améliorer l'expérience client, elles sont assez intéressantes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ces actions sont assez diverses et variées. J'en ai listé que quelques-unes. Mais en fait, c'est souvent des actions court terme qui sont mises en place, qui donnent des impacts tac direct. Les actions un petit peu plus long terme, comme la formation, la culture client, finalement, c'est pas énormément de choses. Vous travaillez beaucoup sur des choses comme la joignabilité, le digital, la mise en forme, etc., etc. Et moins sur un travail de fond, qui est, comme on a dit, le prix, le suivi, la qualité de la relation client. Donc, Dans ce que j'ai noté aussi, bon, ce qui est peut-être pas non plus le domaine d'activité, mais il n'y a aucune action qui a été menée de manière particulière sur la valorisation, la valeur ajoutée, le prix. Mais bon, peut-être que c'est des professionnels de la relation client qui n'ont pas justement les mains libres là-dessus, mais c'est vraiment important de noter. Ce qui est important de noter, c'est également le proactif. Là, c'est vraiment intéressant parce que on voit bien que c'est en rapport avec la valeur ajoutée, la valeur perçue, le fait de faire du proactif, et on le verra juste après avec les petites idées, bah, ça permet justement de valoriser le contrat de la personne en dehors des sinistres ou des problèmes de santé. Donc la satisfaction est dans les priorités, mais voilà, tout ce qui mesure la satisfaction, c'est que un quart des personnes. Alors, ce que je dirais, c'est que je pense qu'il y a une maturité maintenant au niveau des enquêtes de satisfaction. Si une entreprise n'est pas encore équipée d'enquêtes de satisfaction, c'est assez rare. Donc forcément, voilà, c'est plutôt les nouveaux utilisateurs d'enquêtes de SAT qui mettront ça en place, ou alors étendre le dispositif. On voit ici le digital qui est vraiment dans une de vos priorités, tout simplement faire appel aux demandes des jeunes générations et aux pure players, donc la continuer. L'accompagnement, l'image, le suivi, ça, vous avez bien compris que c'est quelque chose qui compte. Continuez toujours à le faire. Et bien entendu, la qualité perçue avec la joignabilité, la mise en forme des documents, c'est quelque chose qui est essentiel. Si on note un petit peu les bonnes pratiques, et là j'en ai noté quelques-unes, donc j'ai bien aimé les appels sortants en multidétention, les appels de courtoisie, les appels sortants des non commerciaux pour valoriser le client, vérifier que ses contrats soient à jour, etc. Donc là c'est vraiment cette idée de valeur perçue, de créer du lien en dehors des interactions. Des actions personnalisées auprès des clients qui ont subi des parcours difficiles, donc des mécontents, des gens qui ont des soucis, ça c'est bien parce que ça permet de rattraper les choses et faire en sorte que la personne ben, vous reste fidèle. Les appels cocooning sur les populations fragiles aussi, ça c'est très bien. Donc on voit bien cet aspect fidélisation. De l'autre côté, je vous ai mis les choses qui sont un peu plus sur l'opérationnel, donc la revue des communications, les contrats, etc., l'optimisation des outils informatiques, la souscription digitale, ça c'est essentiel parce qu'on voit bien que les jeunes générations, ben, elles veulent quand même que ce soit simple et elles trouvent parfois un petit peu compliqué de résilier ou de souscrire. L'automatisation aussi pour fluidifier les process sans valeur ajoutée. Si on parle maintenant aux priorités d'investissement pour 2024, et ben en fait, quelles sont vos priorités? Si il y a une chose qui arrive en premier, on voit bien que c'est tout ce qui est bot et automatisation. Vous avez bien compris que les jeunes générations, elles veulent que ce soit simple, que ce soit rapide, et l'intelligence artificielle fait vraiment partie de vos priorités. Donc ça, c'est les deux tiers. On voit également le CRM, un CRM comme FICI. Bah, tout simplement, c'est l'objectif, c'est d'avoir une bonne vision à 360 degrés, pouvoir segmenter les clients, envoyer les communications, etc., etc. Mais on mettra quand même un petit warning sur le digital. Attention à ne pas surautomatiser. Tout ce qui est digital, bot, etc., c'est bien pour les jeunes. Mais attention, il faut quand même conserver le téléphone, la proximité, les agences pour plaire aux seniors ou tout simplement lorsqu'on a un problème technique. Donc, il ne faut pas faire tout digital. Il faut garder le mode hybride qui permet
Ouais,
d'avoir
ou c'est bien pour des demandes simples.
exactement. Le centre de contact également, on a eu les nouvelles habitudes, tu as parlé des nouveaux canaux, on a parlé de la réactivité, la proactivité, la joignabilité, la voix du client. Donc encore une fois, la voix du client, uniquement un sixième, un sur six en fait des personnes, mais ça se comprend, la plupart des entreprises sont équipées, donc en fait c'est moins une priorité parce que c'est déjà mis en place. Ce qu'on voit par contre, c'est des nouveaux canaux. C'est écouter la voix du client en omnicanal sur le chat, intégrer tout dans les outils d'IA pour analyser les chats, les emails, etc., etc. Donc, la refonte des offres, là par contre, on voit une fois que la refonte des offres fait partie de vos priorités, la valeur perçue, voilà. Mais attention à
Mais
cet
attention.
aspect, à l'augmentation des flux. Méfiez-vous. Voilà. Alors, quelques idées. Donc, sensibilisation des salariés à la culture client, ça c'est important. Pensée client, les interactions avec les clients, la refonte des enquêtes de satisfaction, ça c'est des choses qui comptent. L'enrichissement des offres de services. L'étude du canal vidéo, nous on le voit, la vidéo quand c'est intégré au centre de contact, c'est vraiment un effet waouh pour l'indemnisation, pour du relationnel, etc., etc. On crée vraiment du lien et c'est de la technologie, certes, qui est un peu plus techno, ok, c'est des nouveaux canaux, mais ça crée de l'humain, ça crée de la relation. Donc nous on voit que la vidéo permet donc de vendre plus. De traiter plus vite les informations. Le self-care optimisé, là, hier soir, je discutais avec une entreprise d'assurance qui nous disait, bon, voilà, on a mis en place un paiement qui se fait en quelques secondes au lieu de quelques jours et ça agit fortement sur la satisfaction des clients. Donc, revoir les process et les bots, bien sûr, pour faire du self-care.
Fais-nous rêver.
Alors, qu'est-ce que vous rêveriez de faire? Donc, on voit bien que ce que vous rêvez de faire, c'est un petit peu différent de ce que vous faites. Donc, les idées, c'est un peu plus, comment dire, flou. Autant sur les plans d'action, vous savez ce qu'il faut faire, mais si on dit qu'est-ce que vous rêveriez de faire, ben, il n'y a pas vraiment de consensus qui se dit, ouais, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant. On voit bien que c'est optimiser le CRM, un bon CRM. Des outils, etc., etc., travailler sur les canaux de communication, les bots, mais on voit bien que vous n'êtes pas tout à fait convaincu sur le tout digital. Vous savez qu'il faut l'humain, la culture client, l'efficacité des collaborateurs, plus de monde. Donc, on voit bien que vous êtes persuadé qu'il faut faire des choses sur le digital, mais quelque part, l'humain reste quand même essentiel. Et si on remonte dans les bonnes pratiques, hein, et quelques rêves, c'est par exemple des bonus pour la fidélisation, la personnalisation des communications, l'impact du produit, la prise en compte des intérêts de l'adhérent dans les décisions, que la direction prenne conscience de la relation client, créer une vraie culture de la relation client, la fameuse vision 360 degrés dans le CRM, les bots qui répondent aux demandes simples pour laisser de conseiller sur les demandes à valeur ajoutée, faire de l'appel proactif, de l'appel sortant, rajouter d'autres canaux comme WhatsApp, comme tu le disais, avec les canaux de communication, et améliorer l'espace client pour le self-care. Donc, on voit qu'il y a vraiment ces demandes-là qui arrivent, là, si on peut rêver. Alors, si on peut justement passer dans l'opérationnel, là.
Continuons de rêver. Non, on vous a fait un résumé de ce qui était présent dans les livres blancs ce matin. Donc voilà, vous le voyez, il est sur votre gauche. Si donc Fred l'a dit, on vous enverra un email suite à cet événement. Voilà, remplissez l'enquête de satisfaction s'il vous plaît, parce que nous aussi on est équipés en enquête de satisfaction. Et en remplissant l'enquête de satisfaction, vous recevrez le livre blanc. Avec grand plaisir. Sur la droite, vous le voyez, on a fait un événement où on avait plein de professionnels de la relation client dans votre domaine qui étaient réunis et chacun donne des tuyaux, des partages d'expérience sur comment est-ce que eux taclent les velléités de départ chez leurs clients. Donc, il y en a qui passent par la formation émotionnelle pour leurs conseillers, d'autres qui mettent en place des bots, mais avec parcimonie pour vraiment optimiser cet usage-là ou encore multiplier les occasions de contact. Donc, vous verrez toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube dont vous avez le lien juste en dessous. S'il fallait retenir, là je me racle la gorge parce qu'on arrive à la conclusion, s'il fallait retenir quelques éléments sur tout ce qu'on s'est dit ce matin, c'est qu'il va falloir créer un réattachement chez vos clients. Souvent dans l'expérience client, on parle de réenchanter l'expérience client. Bien là, on va réattacher le client à vous. Et voici les cinq pistes qu'on vous propose. Ça va être de trouver le bon dosage entre digital et physique. Vous avez des publics qui ont des attentes très différentes. Des personnes qui sont digital natives et qui veulent tout trouver sur Internet. Et d'autres, je dirais, plus à l'ancienne, pas forcément les anciens, hein, mais des gens plus à l'ancienne qui ont envie d'aller en boutique, en agence, pour rencontrer leur assureur et pour discuter avec eux. D'ailleurs, on l'a vu, hein, enfin on le voit dans le redesign des agences. On sent qu'il y a vraiment une volonté d'accueillir les gens comme chez eux. On n'est plus sur des chaises de cantine, on est sur des canapés, etc. Donc voilà. Revoyez votre dosage digital et physique. Je pense la tendance a été à la fermeture des agences et là on est un petit peu en train de revenir en arrière. Pensez certes réactivité mais aussi proactivité et là la bonne nouvelle c'est que vous en êtes conscient. Tout à l'heure, Fred parlait, pardon, des appels cocooning vis-à-vis des assurés. C'est exactement ça, en fait. Ne pas attendre que ce soit eux qui entrent en contact avec vous parce que bien souvent quand ils entrent en contact avec vous, c'est pour déclarer un sinistre ou pour déclarer leur départ. Donc prenez le pas en fait, faites le pas avant eux et voilà, prenez des nouvelles, regardez s'ils sont bien couverts par leurs différents contrats, ça peut aider à les retenir. Un autre point que vous avez vu sur toutes les questions qu'on a vues, c'est le gap générationnel qu'il y a entre les 18-24. Alors certes, eux, ils sont peut-être pas forcément, mais les 25-34 et les 65 ans et plus. Vous avez un gros travail à faire sur l'éducation de ces populations. Quand je dis éducation, ça va être leur expliquer en quoi avoir un assureur, c'est important, leur expliquer ce qui est couvert par leur contrat dans des mots clairs et intelligibles, donc pas un jargon, Voilà, donc c'est vous mettre à leur niveau et tenter de les séduire en étant présent là où eux sont présents. C'est vraiment aller les chercher sur leur terrain et ne pas attendre qu'ils viennent sur le vôtre. Créer de l'attachement lors de la gestion des sinistres, on l'a vu, l'insatisfaction, c'est une autre raison qui ferait que les clients vous quittent. Et je vais pomper une expression que j'avais entendue, c'est vraiment l'occasion de transformer le pépin en pépite. Si vous avez votre assuré qui a un sinistre, c'est là qu'il vous attend, c'est sur le remboursement qu'il vous attend, ou en tout cas sur la gestion du sinistre qui vous attend. Et enfin, dernier point, on l'a vu, c'est le point, enfin la raison principale de départ, ça va être l'augmentation des prix. Donc il va falloir travailler sur la valeur perçue et le rapport qualité-prix. La valeur perçue, ça va être tous les services annexes. On ne parle pas de sinistre, tous les services annexes qui vont faire que votre assuré va se dire, ah oui, j'allais dire mon assureur, il assure. C'est hyper bateau, mais c'est vraiment ça en fait. C'est de se dire, ah oui, c'est quelqu'un de bien, il répond présent quand j'en ai besoin. Voilà, il est entré dans ma vie en fait. Donc voilà, les cinq axes sur lesquels on vous propose de travailler, et c'est ce qu'on estime qu'il fallait retenir de cette étude. Et là, on va passer au
Donc, lors
cahier
d'action.
passeport.
Voilà. Alors, bien sûr, dès maintenant, ce qui est important, c'est de revoir un petit peu, vérifier que votre mission, votre vision et vos différenciants sont bien traduits de manière opérationnelle, à la fois dans vos communications, à la fois dans votre relation client, dans les interactions. On parle des courriers, on parle de l'image, de tout ce que vous allez faire. Deuxième chose, faites bien sûr une photo de l'expérience client. Une photo d'expérience client, qu'est-ce que c'est? C'est vérifier s'il y a des points noirs dans le parcours client. Est-ce qu'il y a des nouveaux canaux à mettre en place? Est-ce qu'il faut revoir les produits? Donc là, bien entendu, vous avez tout ce qui est enquête de satisfaction, enquête qualitative que vous pouvez analyser. Donc vérifiez vos process, en particulier sur la gestion de l'insatisfaction et la gestion des réclamations, parce que c'est un moment clé. Et c'est là, en fait, qu'il ne faut surtout pas se manquer. Alors, bien entendu, on peut se donner rendez-vous au Salon Innovation Assurance le 8 février, et ici, il sera présent.
Justement, avec un témoignage sur la fidélisation dans l'assurance. D'ici 3 mois, étape suivante, on vous propose de vérifier si vous avez des données qui sont suffisantes dans votre CRM pour personnaliser la relation. On l'a vu, la personnalisation va jouer sur la fidélité. Et encore faut-il que vous ayez les informations nécessaire à cette personnalisation qui soit présente dans votre CRM. Vous pouvez également faire un audit des performances de votre centre de contact pour, on en a parlé, vous revoir le dosage, automatisation, humain et concentrer l'humain sur des tâches à forte valeur ajoutée et limiter l'automatisation à des questions banales du genre l'envoi de ma carte de mutuelle ou je ne sais quoi. Rééquilibrer votre image sur le web avec les avis clients. Dans un environnement B2C, les particuliers vont souvent voir sur Internet ce que les gens pensent de tel prestataire, du coiffeur du coin de la rue, de l'assureur, etc. Donc, il y a des sites pour ça, Opinion Assurance, Transpilote. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et voilà, faites attention à avoir un bon équilibre sur vos avis clients et n'hésitez pas à pousser les clients que vous savez satisfaits à vous laisser un avis positif sur ces sites. Identifier ou mettre de l'IA pour fluidifier les process sans nuire à l'expérience client avec chatbot, callbot. Et là, je suis sûre que Fred aurait plein de choses à vous dire sur le sujet. Et d'ici 3 mois, on vous donne rendez-vous au salon All for Customer qui aura lieu du 26 au 28 mars à la Porte de Versailles à Paris. On sera tous les deux présents sur le salon. On a Eloquent sur le stand E36 et Efficie sur le E55. On sera dans le même allée.
Alors, dans 6 mois, là, on est un peu plus sur le long terme. Donc, bien entendu, on parlera de la valeur perçue dans vos contrats. On parlera de centraliser la relation client et les informations clients pour une vision à 360 degrés. Remettre de l'humain au bon moment et apporter ce qu'on appelle de la chaleur ajoutée via la proactivité, la gestion des émotions. Il y a beaucoup de formations sur la gestion des émotions chez la plupart des acteurs mutuels et assurances sur le programme culture client. Et si possible, ajouter un petit effet waouh dans le parcours client. Nous, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Et bien sûr, automatiser les process, digitaliser les actions à faible valeur ajoutée, puis améliorer la qualité de la donnée, tout ce qui est mise à jour, automatisation et anonymisation. Voilà.
On a
Donc,
mis 3 petits points parce que ce ne sont que des idées.
tout à fait.
On conclut là-dessus?
Oui, ben merci à tous, merci d'être venus à ce
Merci à
webinaire.
tous, bonne journée et puis on vous envoie donc l'email post-événement avec l'enquête. Répondez bien à l'enquête et vous recevrez le livre blanc et on vous dit à très bientôt sur un des événements qu'on vous a cités et bon courage pour le plan d'action parce que là, on a chargé.
Allez, bon courage à vous, au revoir.
Au revoir.